Le communisme, c'était moyennement drôle, déjà. T'as pas grand-chose, en plus, faut le partager. Mais alors, le capitalisme, ça me fait un peu mal là où je m'assois, quand même. T'as pas grand-chose, mais en plus, faut leur donner. Finalement, je me demande si le communisme, c'était quand même pas plus équitable. Non, je déconne. Ça doit être la crise qui me rend comme ça. Dieu que la crise économique est belle.
Bonjour, c'est Sylvie de Nantes. C'était il y a 2 semaines sur l'antenne de France Inter, à l'heure de partir au travail. Donc, il y a Laurence Parisot qui était interrogée et qui, à propos de la crise, a dit qu'on était tous sur le même bateau. Ben non, il y en a qui sont sur des yachts, qui consomment en 1 heure ce qu'un automobiliste consomme en 1 année. Ça, je l'ai appris dans l'émission. Il y en a qui sont sur des barques et qui rament. Il y en a qui sont sur des radeaux même, et qui coulent. Je suis institutrice spécialisée dans un RAZ. Vous savez maintenant ce que c'est qu'un RAZ. Et j'aide les enfants en difficulté scolaire. C'est un service public dans une école publique. Et mon poste va être supprimé. Mais sur mon radeau, il y a des enfants. Alors s'il te plaît, Daniel, passe mon message pour que tous les enseignants, les parents d'élèves, les grands-parents d'élèves, tous les gens qui sont concernés par l'avenir de l'école publique, se mobilisent pour venir à la manif à Paris dimanche prochain. Merci de passer mon message. C'était Sylvie de Nantes.
Oui, Monsieur Mermet, je suppose que demain vous allez parler, faire les gorges chaudes de ce qui arrive à Monsieur Besancenot, mais il serait aussi honnête de parler de ce que faisait Monsieur Mitterrand à propos de Monsieur Edernalier, menace de mort, écoute téléphonique, Carole Bouquet, etc. Merci de passer son message. Je pense pas que vous aurez le courage. À bientôt.
Bah, salut Daniel, imagine un type qui vient d'avoir un accident de voiture et qui se trouve coincé là sur le bord de la route alors que sa bagnole prend feu. Toi, tu t'arrêtes pour l'aider, mais au moment où tu veux le sortir du brasier, le gars te dit « D'accord, mais uniquement si tu me files ton portefeuille. Bah, » C'est un petit peu ce que demandent les grandes banques anglaises en ce moment. Alors que le gouvernement britannique vient de leur sauver la mise à travers un plan de sauvetage de plus de 45 milliards d'euros, elles se plaignent de ce qu'on leur ait demandé de bien vouloir s'abstenir de verser des dividendes à leurs actionnaires. Oh my god, mais c'est pas possible! Alors il faut savoir que, grosso modo, un actionnaire gagne de l'argent par 2 biais. D'abord, quand il revend un titre dont la valeur s'est appréciée, par exemple, j'achète une action EADS 2 euros, je la revends 10 euros. Mais le deuxième biais, c'est chaque année lorsque l'entreprise lui verse un dividende qui correspond à une partie des profits dégagés dans l'année. Donc en fait, au Royaume-Uni, les banques qui seraient mortes sans intervention de l'État repartent à l'offensive dès qu'on les a sorties de leur bolide en flamme pour servir les intérêts d'actionnaires qui, eux aussi, auraient perdu leur mise sans l'intervention de l'État. En d'autres termes, la conditionnalité qu'exigent ces gens, c'est « d'accord pour que vous nous sauviez, mais seulement si on peut continuer à gagner toujours plus ». C'est un petit peu la vie et la bourse. Allez, salut!
Bonjour Monsieur Mermet et ainsi que vos auditeurs. Votre émission est certainement nécessaire pour qu'il y ait une petite soupape de sécurité pour que des choses tout à fait démagogiques puissent être dites sans vraiment inquiéter personne. Mais simplement, le système capitaliste, vous le savez très très bien, vous êtes un homme parfaitement au fait des choses et extrêmement cultivé, n'est pas né dans la boîte crânienne d'un monsieur sur une table avec un stylo, un crayon, un ordinateur aujourd'hui. C'est le résultat d'un processus historique qui connaît régulièrement des ruptures, des métamorphoses, des remises en cause et de nouvelles évolutions depuis grosso modo 500 ans, les premières villes, État ou cité-État où l'économie marchande a commencé à s'élaborer. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est une crise passagère et il y aura les nouveaux systèmes de régulation nécessaires et le capitalisme, fort heureusement, repartira d'un bon pied. Voilà pour simplement un témoignage légèrement différent de ceux qui généralement sont chez vous nécessaires sans doute à la psychanalyse collective à laquelle vous contribuez. Merci, au revoir.
Salut à tous, je viens d'écouter le reportage de François Ruffin. Je suis très ému, bouleversé d'apprendre qu'il existe une chaîne de solidarité pour aller chercher des framboises à l'autre bout du monde pour satisfaire le dernier caprice du milliardaire. C'est beau comme tout, une chaîne de solidarité de ce type. On s'attendait à tout sauf à ça, mais... Mais il y a des gens qui sont capables de prononcer ces mots-là. Chaîne de solidarité pour aller chercher des framboises. Globalement, leur partage nous laisse complètement quoi. Ouais. Salut Pascal de Brest, ciao.
Bonjour et merci Daniel, parce que grâce à ton émission sur le salon du yacht de Monaco, j'ai rêvé. J'étais dans ma cuisine, en train de déguster un succulent plat de pâtes, à défaut de pouvoir me faire livrer du caviar par hélicoptère, et là mon esprit a voyagé, le grand large. Tous ces yachts biodégradables, éco-certifiés, recyclables jusqu'au dernier boulon, des bijoux de verdure voguant sur notre belle planète bleue. Ah, c'est les poissons qui vont être heureux. Imaginons ou espérons que ces beaux yachts coulent un jour, au large de la Somalie par exemple. Ce serait pour nos petits poissons, en voie d'extinction, un fabuleux banquet où tout y est comestible et biodégradable. Des yachts pour remplacer les baleines. Non, vraiment génial, quoi.
Qui sont bien tous ces petits messages. Merci, auditeur modeste. C'est génial, cher AMG. Aujourd'hui, là-bas, si j'y suis, répond à l'appel du président de la République française, et pas seulement au président de la République, mais à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui nous dirigent, qui se posent des questions et qui y répondent. Et la réponse qu'ils apportent aux questions qu'ils se posent, c'est « il faut refonder le capitalisme ». Il y a quelque chose qui cloche et il faut absolument remettre les pendules à leur place. Et nous, aujourd'hui, on va amener notre petite modeste contribution. Et le problème, évidemment, c'est le capitalisme sauvage. Alors, nous faisons partie de ceux pour qui cette expression « capitalisme sauvage » est un pléonasme. C'est un pléonasme. Dire « capitalisme », ça suffit à dire « sauvage ». Mais on est, évidemment, vous savez bien, on vient de le dire encore, minoritaire, et on ne sert pratiquement à rien, sinon à soulager un petit peu, à soulever une petite soupape, comme ça, chaque jour, entre 15 et 16 heures. Néanmoins, on va quand même essayer d'apporter notre modeste contribution. Et où est-ce qu'on va l'apporter, notre contribution, avec Pascariello aujourd'hui ? Eh bien, dans le domaine des relations entre le capital et le travail. Et en l'occurrence, entre les entreprises du BTP et les salariés. Et plus précisément, entre les salariés de chez Bouygues Bâtiment, vous savez, Bouygues, et certains salariés qui sembleraient ne pas avoir de papier, dites donc. Et alors ça, c'est quand même quelque chose. Et si on veut refonder le capitalisme, comme on l'entend ces jours-ci à l'envi, eh bien, je crois qu'il faut peut-être se pencher sur ces relations entre cette grande entreprise et ses salariés, et notamment les sans-papiers. Car ces travailleurs, ces immigrés pour la plupart, ont été célébrés par Francis Bouygues lui-même, qui disait à leur sujet « Leurs bras nous sont soumis, mais nous avons besoin de leur cœur, plus encore que dans toute industrie. » Eh bien, on va voir et les bras et les cœurs de ces hommes-là, dans là-bas, si j'y suis. Auparavant, quelques messages encore parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour. Arte posait la question la semaine dernière, les actionnaires ont-ils tous les droits ? Ils ont diffusé à cette occasion-là l'entrepreneur et l'actionnaire. Ils vont le rediffuser le vendredi 17 à 10h50. Alors si vous n'avez pas vu ça, franchement, regardez-le, vous comprendrez pourquoi les actionnaires ont tous les droits, entre autres, de privatiser à tout va. Franchement, c'est extraordinaire. Et surtout la blonde, elle est fantastique. Quand elle dit que son mari va redresser l'Allemagne, franchement, c'est extraordinaire. À bientôt, merci.
Ouais, il y a une clique de voyous, là, de banquiers, d'affairistes qui viendra faire la mise. 300 et quelques milliards ici, 300 et quelques milliards là. Moi, si j'étais banquier, je raserais les murs et surtout j'éviterais de passer des messages aussi cyniques et puants que celui du Crédit Mutuel sur France Inter.
Alors, s'agissant du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi ?
Nicolas Sarkozy, 8 janvier 2008.
Que je vide des caisses qui sont déjà vides ?
Le plan de secours aux banques décidé par la France le 13 octobre 2008 prévoit une garantie des prêts interbancaires s'élevant à 320 milliards d'euros. Budget général de la France pour 2007. Travail et emploi.
Qu'est-ce que vous attendez de moi ?
12 milliards d'euros.
Que je vide des caisses qui sont déjà vides ?
François Fillon, 21 septembre 2007.
Il faut utiliser des images, et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, pour faire comprendre à des agriculteurs qui demandaient toujours plus à l'État. Je leur ai dit, au fond, que si la France était une entreprise, eh ben, elle serait en état de cessation de paiement.
Aide du gouvernement français au renflouement de la banque franco-belge Dexia, 3 milliards d'euros.
Et il faut que tous les Français prennent conscience qu'il est temps aujourd'hui de mettre un terme à des solutions de facilité qui, depuis 25 ans, ont été employées et qui placent notre pays dans une position de faiblesse.
23 septembre 2007.
Et c'est dans ce contexte
TF1.
Que le projet de loi de financement de la sécurité sociale sera présenté demain. Le déficit dérape, le gouvernement devra miser sur de nouvelles recettes, par exemple franchise médicale ou la taxation des pré-retraites.
En grâce.
8 décembre 2006. Dominique de Villepin.
Comprenons que l'économie, c'est la vie. Il y a des décisions qui doivent être prises tous les jours et qui s'imposent tous les jours et qui doivent être prises en fonction de l'intérêt général de l'entreprise. L'intérêt général de l'entreprise.
Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Que je vide des caisses qui sont déjà vides ?
Ils construisent des raffineries de pétrole au Cameroun, ils montent des installations portuaires au Maroc, ils lancent des ponts au Koweït et font pousser en plein désert une université complète en Arabie Saoudite. Ils, ce sont les hommes au badge orange, 20 000 hommes dans le monde entier, plus un, le patron, Francis Bouygues. Un patron heureux qui n'a pas peur d'afficher des bénéfices substantiels à faire pâlir tous ses concurrents. La clé de la réussite, on l'affirme sans complexe dans le groupe français, il y a une méthode Bouygues, l'essentiel, être le meilleur, avoir une idée et des méthodes pour l'appliquer.
Quand Bouygues dit on n'a pas de sans-papiers sur nos chantiers, là c'est faux. Donc soit ils mentent, soit ils ne savent pas, mais on peut leur dire c'est faux, ils ont évidemment des sans-papiers sur le chantier qu'ils n'emploient pas directement et ils se retranchent derrière ça. Ils ont eu recours à des agences d'intérim justement pour ça.
Chez Bouygues, nos compagnons font partie de la société,
Francis Bouygues.
Ils passionnent pour la société et je pense que c'est un élément qui est très important.
Ça fait 9 mois que je travaille pour Bouygues.
Et vous payez les heures sup ?
Non, ça arrive pas.
Je suis très embêtée, c'est pour ça que j'aurais aimé avoir une réponse des DRH. J'ai rencontré des travailleurs sur papier qui travaillent pour Bouygues, qui ont des badges Bouygues et qui travaillent sur les chantiers Bouygues. Donc ça, j'aurais bien aimé que vous m'expliquiez.
Ça doit être des intérimaires, parce que je vous mets au défi de trouver un salarié Bouygues. Qui est pas régulier.
Un défi. C'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Pascal Pascardiello. Leurs bras nous sont soumis.
Flight number 2, arriving from.
Alors Engel, c'est les coulisses du bâtiment, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, c'est les coulisses du bâtiment. C'est un événement organisé par la Fédération française du bâtiment qui consiste à ouvrir 300 chantiers à peu près dans toute la France. C'est des chantiers habituellement fermés au grand public. Donc là, les familles, les jeunes, les moins jeunes, enfin tout le monde peut regarder derrière les palissades.
Donc là, on est à l'Université de Jussieu à Paris.
Exactement.
Et c'est un chantier Bouygues.
C'est un chantier Bouygues, oui. Oui, qui est entièrement dirigé par Bouygues, oui.
Merci. On met le gilet.
Donc on met
de sécurité.
En fait, le principe, c'est qu'on met bien sûr avant tout casque et gilet de chantier. Le casque, c'est une mesure de sécurité, c'est obligatoire sur le chantier. Donc comme les vrais ouvriers, et le gilet, bien sûr. Très sexy, hein, fluo. Les groupes, c'est 20 personnes maximum, toujours pour une question de sécurité. Et tous les groupes sont accompagnés par des personnes de chez Bouygues, qui sont des conducteurs de travaux en général.
Et des ouvriers Bouygues ?
Des conducteurs de travaux. Je ne pense pas que ce soit les ouvriers qui fassent la visite.
Pourquoi ?
Parce que le conducteur de travaux a une vision globale. Après, les ouvriers peuvent être interrogés par les visiteurs, je suppose. Mais eux sont de toute façon à leur travail. Donc,
sur le bateau piqueur sur...
Oui, voilà. Ouais. Là, on les entend. Là.
Ah oui, ils ne font pas la pause déjeuner. Hein.
Je ne sais pas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes...
On s'enregistre où ?
Anne-Gaëlle de l'agence Elfima, agencée au téléphone.
Vous voulez qu'on fasse un tour de chantier ou pas ?
Ouais, okay.
Et c'est dans quel...
C'est là-bas si j'y suis.
Comment ?
Là-bas si j'y suis.
Vous avez du mal à le dire.
C'est l'émission.
Ah oui, d'accord.
C'est une émission d'ambiance, vraiment. C'est très dans la vie des gens. C'est... Il n'y a pas de... il n'y a pas de... C'est pas comme une émission de radio, genre à l'occasion des coups du bâtiment, on interview machin et bidule. C'est très vivant, c'est très sur le vif en fait.
C'est très vivant, c'est très sur le vif, mais bien sûr. Et alors, elle est naïve, cette Pascale Pascariello, parce qu'elle s'est dit, oh ben voilà, tiens. Moi, je voudrais bien savoir s'il y a, oui ou non, des sans-papiers qui travaillent sur les chantiers de Bouygues. Alors, elle s'est dit, comment le savoir ? Parce qu'elle appelle au téléphone, prend son téléphone, et puis elle appelle chez Bouygues, elle leur dit, est-ce que vous avez des sans-papiers, des fois, qui travailleraient ? Et les gens lui répondent pas, il dit, bah, faudra rappeler tout à l'heure, etc. Elle se dit, alors, comment je vais faire ? Alors, et là, qu'est-ce qu'elle voit ? Les coulisses du bâtiment, formidable, les coulisses du bâtiment, journée, portes ouvertes. Et ça, ça lui plaît, parce qu'elle se dit « Ah, d'habitude, ces chantiers interdits au public. » Eh bien là, pas du tout. On peut tout voir sur le bâtiment. Alors, c'était le week-end du 9 au 11 octobre. Levé de rideau sur les métiers du bâtiment. Alors là, ça dit bien ce que ça veut dire. Là, elle s'est dit « Tiens, je vais faire un bon reportage et je vais voir s'il y a des sans-papiers là, quoi. Voilà. » Alors, elle a pris contact. Hein. C'est une journaliste qui prend contact avec les services de communication, avec tout ça. Et puis, elle est allée voir. Parce que c'est quand même... c'est important, le bâtiment en France. Le bâtiment, c'est important. 1600 chantiers et ateliers. 7000 entreprises. 7000 entreprises en France, dont évidemment la plus grande, la plus belle et la plus célèbre, c'est évidemment Bouygues. Alors elle se dit, tiens, je vais aller voir toute affaire, puisque c'est connu du grand public. Vous savez, c'est comme elle est naïve, elle se dit, bon, ben, le grand public, et puis les sans-papiers, je vais sans doute tout apprendre au cours de ce week-end organisé par la Fédération française de bâtiments, du bâtiment sur 300 chantiers. Évidemment, c'est des opérations sympathiques, on fait dans la pédagogie, ce qui est parfait, ce qui est très bien, et puis surtout on fait dans la transparence. Et ça, c'est un mot qui lui a plu à Pascale Pascariello, la transparence. Elle s'est dit, alors là, ce coup-ci, je vais tout savoir. Et bien, on va la suivre jusqu'à 16h sur cette quête, avec à l'esprit une petite phrase attribuée à Gandhi. Quelqu'un demandait à Gandhi, qu'est-ce que vous pensez de la civilisation ? Et Gandhi répondait, je pense que ce serait une bonne idée.
Hé là, monsieur. Bonsoir.
Qui ? Moi ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Ça va ?
Oui, ça va.
Bon, je veux tes papiers, s'il vous plaît.
Quoi ?
Je veux tes papiers, s'il vous plaît.
Pourquoi faire ?
Quoi ?
Pourquoi faire ?
Je te demande tes papiers, s'il vous plaît.
Mais monsieur, vous me demandez mes papiers, pourquoi ?
Tu es venu en France comme ça ? On t'a pas dit qu'en France, il fallait des papiers ?
Il y a beaucoup de Français en Afrique.
Quoi ? Tu te fous de moi ? Brigadier !
Pourquoi faire ?
Embarquer !
Non ! Non ! Non ! Non ! Papier !
Bonjour, vous êtes
Bouygues. Moi, je suis Bouygues, bâtiment Île-de-France. Donc, on est l'entreprise générale. Donc, moi, Jean-François Ched, je suis directeur de travaux adjoint. Donc, je suis responsable du projet.
Et quand on dit coulisses, j'imagine, c'est tout ce qu'on peut pas voir.
Effectivement, les chantiers sont interdits au public parce que c'est plus un problème de sécurité, puisqu'on n'a rien à cacher, nous. Hein, vous le savez très bien.
Les travaux continuent, là.
Les travaux continuent.
Parce que j'entends le son des travaux.
Effectivement, ponctuellement, il y a une activité sur le chantier.
Ouais. Il n'y a jamais d'heure de repos. On est samedi, il doit être 13h.
Oui, un compagnon doit... Ouais, non, ça je...
Vous ne voulez pas le dire. Un compagnon doit être en train de finir une tâche.
Oui, je ne veux pas commenter ça. Non, il n'y a pas besoin de commenter.
Un compagnon, c'est quoi? C'est un ouvrier?
Un compagnon, c'est un ouvrier, effectivement. Nous, on a l'habitude, chez Bouygues, d'appeler compagnon. C'est beaucoup plus noble. Et puis, c'est des personnes qui sont chargées de mettre en œuvre les matériaux. Ils participent à l'édifice, ils apportent leur pierre à l'édifice. C'est une appellation qui a toujours été prise chez Bouygues, parce que ouvrier, c'est un peu négatif. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression d'avoir des personnes qui sont dans la mine, alors que certains de nos compagnons repassent devant leur chantier et peuvent dire « voilà, c'est moi qui ai construit ce mur ».
Donc on ne peut pas parler du monsieur qui est en train de travailler là?
Non, non.
Pourquoi?
Non, il travaille, c'est tout.
Pourquoi? Parce qu'on est samedi, on n'en parle pas. Bon. Donc on fera comme si on est jeudi ou vendredi.
Voilà, ouais.
Là, on peut en parler,
oui,
si on est jeudi ou vendredi.
Ouais. Donc effectivement, on entend des bruits donc derrière nous. C'est les compagnons qui travaillent sur le site, qui sont en train de faire des tâches de montage de façade, etc. Quoi. En complément, quand on a des coups de bourre à donner, en fait, on fait appel à des compagnons intérimaires qui viennent nous donner un coup de main et qu'on associe pleinement dans l'équipe. Pardon, je reprends mon souffle. Parce que...
Allez-y, reprenez, ouais. On peut reprendre. Alors... Ces derniers temps, on a vu qu'il y avait dans l'intérim des grèves de travailleurs sans papier. Est-ce que c'est envisageable qu'il y ait des travailleurs sans papier sur des chantiers Bouygues?
Vous pouvez constater ici qu'on a des badges, chacun un badge sur le chantier, où les badges sont attribués à chaque entreprise à partir du moment où les contrôles réglementaires sont faits, à partir du moment où il y a l'agrément du maître d'ouvrage qui est fait, donc les chantiers sont filtrés.
D'accord, donc pas de travailleurs sans papier sur les chantiers Bouygues.
Comme je vous dis, les chantiers sont filtrés avec des préalables, des contrôles avant.
D'accord, vous pouvez me le dire alors, qu'il n'y a pas de travailleurs sans papier sur les chantiers Bouygues, comme ça l'histoire est close. Vous ne pouvez pas le dire.
On va arrêter la discussion, parce que si vous voulez partir sur un terrain dérivé, sur un terrain qui je ne sais pas où vous voulez aller, on va arrêter.
D'accord, non mais moi c'est juste l'interrogation, parce que c'est juste une question de bon sens, c'est-à-dire... Du moment où vous me dites qu'il y a des contrôles, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Je ne comprends pas pourquoi vous dites...
Vous interprétez comme vous voulez, mais en tous les cas, je vous ai donné ma réponse. Voilà.
Parce que si vous dites pas qu'il n'y a pas de travailleurs sans papier, on va imaginer qu'il y en a. Sur le chantier Bouygues.
Je pense qu'on va en rester là, si vous voulez bien. Vous faites votre travail de journaliste, moi je fais mon travail. Et je pense qu'on va en arrêter là, point, c'est tout. C'est tout. Vous êtes venu spécifiquement pour nous parler du travail clandestin. Donc nous, on vous parle des coulisses du bâtiment, c'est terminé. Voilà. Je vous propose de prendre contact avec Hubert Angelman pour discuter de ce point-là. Je souhaite vous passer à une autre question. C'est bon.
Ah, c'est pas facile, hein, elle est déçue, là, Pascal Yellow, elle pensait vraiment avoir une réponse, là, et le chef de travaux adjoint, il est quand même un petit peu gêné aux entournures, mais il a quand même une qualité, c'est qu'il ne veut pas mentir. C'est quand même pas si mal. C'est déjà pas si mal par les temps qui courent. Alors, on s'est tourné vers le monsieur dont il a parlé, qui est le responsable de la communication, service de presse, et qui nous a, au téléphone, il n'a pas voulu nous prendre, pas de rendez-vous, etc., mais qui nous a quand même adressé un courrier au sujet de... Il faut savoir quand même qu'il y a quelque chose entre 200 000 et 300 000 salariés sans papier dans le BTP en France. 200 000, 300 000. Et, en principe, hein, officiellement, il n'y a aucun sans-papier qui travaille sur les chantiers Bouygues. Alors, c'est quand même costaud, hein, 200 à 300 000 qui sont sans-papier, et aucun, pas Bouygues Construction, met tout en œuvre pour lutter contre le phénomène des travailleurs sans-papier ou détenteurs de faux-papiers. nous dit-on dans ce communiqué qui nous parvient donc du service de presse de Bouygues Construction. Le groupe a notamment signé des contrats cadres avec les sociétés d'intérim les plus sérieuses. Ces contrats cadres doivent nous garantir qu'on ne trouve pas de travailleurs sans papier sur nos chantiers. Les procédures de contrôle et les contrôles eux-mêmes sont régulièrement renforcés. Le groupe effectue avec l'aide des préfectures tous les contrôles nécessaires pour s'assurer que tous les personnels étrangers qu'il embauche possèdent des papiers en règle. Le groupe n'a cependant pas les moyens techniques et humains de détecter les faux papiers, passeports, cartes d'identité, bulletins de salaire, etc., qui sont émis par des filières de plus en plus organisées. Cela est du ressort et de la compétence des services de l'État. Voilà, c'est clair, non ? C'est pas clair. Eh bien alors, on va essayer d'en savoir plus. Déçu, Pascal Pascariello s'est tourné vers ces travailleurs, ces hommes qui travaillent sur ces chantiers. Et elle a rencontré ainsi Traoré, qui fait partie bel et bien de ce dont on parlait à l'instant, de ces travailleurs qui sont assez fiers de leur travail. C'est l'opération transparence. Mais ils n'ont pas que ça à dire.
Ah, c'est beau comme
bâtiment. C'est pas mal du tout. Et puis voilà, il y en a des gens qui ont relogé dedans déjà. Bon.
Ah oui, c'est vrai. Il y a déjà des personnes logées à l'intérieur, parce qu'on voit des petites fleurs sur le balcon. Là.
Ouais,
en fait, il y a des petits balcons, ouais. Et des briques blanches et avec des murs de temps en temps saumon.
Au niveau du travail, toute personne, quelle que soit, tu as une situation régulière, quelle que soit, tu as une situation irrégulière. Dès que tu as ton poste de travail, il faut essayer de montrer qu'est-ce que tu es capable de faire, quoi. Voilà. Connais mon boulot, j'ai mon métier, mais qu'est-ce qui me manque aujourd'hui, c'est un papier, quoi. Mais si tu n'en as pas, tu n'en as pas, quoi. Voilà. Mais ça t'empêche de t'installer, ça t'empêche de faire plein de choses, et puis voilà, quoi. Si tu veux, on peut aller visiter un autre sentier que j'ai fait, et puis bon, ça ne m'empêche pas de te montrer tous les boulots qu'on a fait, bon, voilà quoi, c'est pas mal du tout, et puis voilà, c'est ça.
Tout ce à quoi vous avez participé, Traoré, moi j'ai l'impression que le travail et le fait de construire tous ces immeubles, vous, ça vous tient à cœur, c'est-à-dire que c'est pas rien, quoi.
Entre nous, même les ouvriers, les chefs, au début du sentier, on est dans la boue, on salit partout, mais arrive un tel moment, à la fin du sentier, il y a certaines pièces comme un bâtiment, comme il dit un appartement témoin. Puis voilà, il y a la moquette, il y a tout ce qu'il faut. Mais tu ne peux pas rentrer, quoi. Mais souvent, on oublie entre nous-mêmes. Et puis voilà, on ne pense pas à ce qui s'est passé, le moment qu'on était dans la terre. Et puis voilà, aujourd'hui, tout le travail accompli. Bon, voilà.
C'est des beaux bâtiments, ça y est, ils sont peints. Ouais, c'est fini,
c'est
là.
Des beaux bâtiments. Et puis voilà, il est à côté de la route et tout le monde voit, et bien voilà, même les gens qui passent dans le train, ils voient, et puis voilà, c'est trop bien, c'est génial.
Vous êtes fier?
Pas beaucoup, je sais qu'est-ce que j'ai vécu ici.
Félicitations, monsieur.
Merci. Voilà, c'est bien. Je suis né au Mali, ouais. Je suis né au Mali, y a une région qui s'appelle là-bas, région de Ségou.
Vous êtes venu quand ? Il y a combien de temps ?
Moi, je suis là depuis 2001, voilà.
Depuis 7 ans ?
Je suis arrivé, j'étais 23 ans, j'étais embauché avec Bouygues, c'était 2003, voilà. Ouais, on est chez moi, j'habite ici et...
Le salon ?
Il y a la chambre. Il y a la toilette, et puis il y a la cuisine, et puis voilà. Quand même, c'est mieux que rien, quoi, mais quand même, je pense qu'un jour, je vais essayer de voir, et puis voilà, si j'arrive à trouver un autre un peu plus grand que ça, c'est bien aussi, quoi.
Pour qu'il y ait une fenêtre dans le salon.
Ouais, voilà, s'il y a une fenêtre dans le salon, et puis tu prends un peu de l'air. Fait les contrats, il est là, direction, ressources humaines et communication. Contrat de travail à durée indéterminée. Entre la société Bouygues, l'Île-de-France SA, M. Traoré Bakary, domicile
Il avait dans Paris une nationalité malienne, carte de séjour. Il s'est travaillé. Il est embauché à Compte le 3 avril 2003 par la société Bouygues Île de France en qualité de boiseur.
Donc les horaires mensuels, 151 heures et le salaire. Mais je ne sais pas où c'est le salaire. C'est compliqué vos fiches de paye chez Bouygues.
C'est compliqué. Les salaires, tu as déjà un acompte. Bon, ils donnent des acomptes, c'est tous les ouvriers, que ça soit.
Et là, donc, il y a le salaire de 1654 euros. J'ai quelque chose à vous faire lire. C'est ce que disait le père de Martin Bouygues, Francis Bouygues.
Cette main-d'œuvre étrangère est une main-d'œuvre que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a 20 ans que je travaille avec une majorité d'étrangères. Donc, je les connais bien. Les étrangers sont des gens qui ont beaucoup de qualités.
Et ils ont une qualité fondamentale, pour moi, employeur, qui a toute ma sympathie.
C'est que s'ils viennent chez nous, c'est pour travailler.
Et à la base, ce sont des gens très courageux.
Alors ça, c'est à l'air actif. Mais, par contre...
Ils ne parlent pas notre langue.
Ils ne sont pas tellement qualifiés.
Et puis, ils viennent avec une idée en tête, c'est d'amasser un pécule.
Et de nous quitter quand ils auront un pécule suffisant.
Ça n'est pas une main-d'œuvre stable. Et c'est une main-d'œuvre que nous ne pouvons pas former. Et nous n'avons pas l'espoir que si nous la formons, nous pourrons la conserver.
Et finalement, des hommes qui vous apportent leurs bras tous les jours et qui laissent leur pays natal à des mille kilomètres, leurs femmes, leurs enfants, leurs foyers, disons leur cœur à des mille kilomètres, on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment disponibles.
Qu'est-ce que vous en pensez?
On sait, on laisse notre famille derrière nous. On fait plus que 10 000 kilomètres, plus que ça. Mais chaque personne a son propre intérêt. On sait, un directeur d'une entreprise, s'il est tout seul, il ne peut pas être un directeur. Il y a des gens derrière lui. Si tu vois un président, c'est la population qui le soutient. Mais quand même, je pense que s'il avait pensé avec ces étrangers-là, qu'est-ce qu'il a fait avec ces étrangers-là? Ils ont gâché leur vie pour lui. Et chaque fin de mois, qu'il pique des pognons. Un patron, il ne peut pas monter comme ça. Tous les employés que tu vois, tu travailles avec lui. Même s'il te paye 4000 euros par mois, que ce soit ton salaire, il gagne sur ton dos. Et puis au niveau de la paye, il te pique. On sait, l'entreprise, ça ne monte pas comme ça. Comme les gens disent, c'est le grand qui pique des petits, toujours. Ça aussi, pour entendre des mots comme ça, je pense que ça nous fait de réfléchir, de savoir plus qu'est-ce qu'on doit faire. Mais je pense qu'il ne connaît pas la qualité d'un étranger, quelle que soit son origine. La France, nos grands-parents, nos parents, ils ont combattu. Mais je pense que si vous avez mangé le piment ensemble, s'il y avait le miel, il fallait partager. Mais on n'a pas dans ce cas aujourd'hui. Quelle est la France que j'ai entendu parler? Que nos grands-parents qui sont incarcérés ici, il y en a qui n'ont même pas de jambes, mais on ne les voit pas. Mais Francis Bouygues, il n'est pas devenu riche pour rien. C'est à cause de ses ouvriers, c'est à cause de ses manœuvres, c'est à cause de ces étrangers qu'il a eu son entreprise. Il pique chaque mois quelque chose. On ne compte pas, on sait, au niveau de la fiche de paye. Même si c'est 50 centimes, chaque mois il te pique. Mais toi, tu vois, tu dis que ce n'est rien. Mais tu sais, ça rapporte combien? Déjà chez Bouygues, on a fait la réunion à Villepinte. Il y avait presque 6 000 personnes, 5 900 combien? Pour la réunion pour la sécurité, avec tous ses ouvriers, avec tous ses collaborateurs, avec tous ses sous-traitants, avec tous ses intérimaires. Profite, c'est le moment. Mais nous aussi, tout ce qu'on vous demande, c'est notre régularisation. On n'a pas demandé de nous donner de l'argent, de nous donner autre chose. On a demandé notre droit. Francis Bouygues, tu es parti. Mais quand même, tu as laissé une trace derrière. Si tu blesses quelqu'un, ça peut soigner. Mais un mot qu'on les note, on ne l'oublie jamais. Nous, on lit nos frères, nos sœurs, nos fils, nos petits-fils, il est dans le journal et ça continue. C'est vraiment...
Dans les églises, retour en charter, c'est terre rouge contre terre grise.
Tonya djuru tegele,
tonya djuru tegele.
Touba boube fambe,
touba boube fambe,
touba boube konoware.
Je suis du Mali, je suis en France. Rendez-moi ce que vous avez pris avant l'indépendance.
Moi je bouge pas, non. S'il faut, je bouge là. Bouger, moi je bouge pas, non. Ne m'approche pas, bouger, non.
zoo. Dans ma zone, blanc, noir, jaune. On quittait Dakar, Pékin ou Arzanzan pour la warzone. Et vu que des siècles n'ont pas suffi pour se mélanger, les sièges pacifistes continueront pour d'éternels étrangers. CRS, CRS, nous pas bouger, on verra le reste. Cheval reste, si vous voulez, nous pas bouger, nous pas bouger. Au pays, à Moulkhalis, Makin Flouz, y'a pas de blé. Les clandestins peuvent t'assurer que l'argent a un vrai goût de papier. Faf et Gattaf, c'est bien plus clair qu'un immigré choisi. Jadis il disait noir et peine, le bon tirailleur que voici. Oublié par nos colons, au fond nos peuples veulent que l'union. Et s'y font, iront chercher bonheur, même dans la gueule du lion.
Ils sont venus, ont tout pillé, ont construit deux trois écoles. On a du bol, essaye de me censurer quand j'exprime mon ras-le-bol. Colon, ta descendance me fait une zermie pas possible. Polygamie égale émeute, dites-moi si c'est plausible.
Bouge, bouge pas, non. S'il faut je bouge là, bouge. Moi je bouge pas, non.
Expliquez-moi un peu, parce que j'ai l'impression que dans la famille Bouygues, on a un rapport particulier avec la main-d'œuvre étrangère.
Bouygues était connu dans les années 50-60, à la fois pour décrier la main-d'œuvre étrangère, il le fait notamment dans un texte qu'il écrit en 1964 en disant que c'est une très mauvaise idée de recourir à la main-d'œuvre étrangère pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre parce que, dit-il, elle est de qualité médiocre. Et en même temps, l'entreprise serait de celles qui ont le plus utilisé de travailleurs étrangers à cette époque-là. Et il explique bien d'ailleurs dans une interview qu'il donne à Marcel Trias dans un film qui s'appelle Étranges, que si il avait des Français, il faudrait les payer 25 à 30% plus cher. Les chiffres sont de lui, 25 à 30% plus cher. À cette époque-là, dans les années 60, Bouygues utilisait près de 60% de main-d'œuvre étrangère et disait que ça lui permettait d'être à 10% moins cher que ses concurrents.
Nicolas Jounin a publié un livre qui s'intitule « Chantier interdit au public, enquête parmi les travailleurs du bâtiment ». C'est un sociologue, mais qui a eu la précaution de travailler sur ces chantiers pendant un an. Il a travaillé, il a fait son enquête de terrain, comme on dit chez ces gens-là. Il s'est immergé et il a apporté ce livre magnifique sur les conditions de travail sur ces chantiers interdits au public. Et sa conclusion, là voilà, c'est qu'évidemment, Bouygues, comme les autres entreprises de BTP, dans une parfaite hypocrisie, emploie, utilise et exploite des travailleurs sans papier. Exploite parce qu'évidemment c'est une main-d'œuvre corvéable, disponible, qui n'a absolument aucune défense, puisque s'ils sont pas contents, ils ont qu'à partir. Donc voilà, le sans-papier, c'est avant tout ça, sans parler de l'usage qui en est fait, l'usage politique qui est fait de la figure du clandestin qu'on renvoie à la frontière pour ostensiblement le bouc émissaire pour essayer de plaire à un électorat pris à Le Pen. Ça c'est un aspect, c'est un des usages du sans-papier, mais pour l'essentiel, le sans-papier, c'est d'abord un travailleur exploitable qui permet d'entraver la lutte syndicale, la construction même de syndicats, tant il est vulnérable. De là, évidemment, le courage de ces travailleurs sans papier qui, depuis le mois d'avril dernier, luttent pour leur reconnaissance et pour leur papier. On continue avec Nicolas Jeunin.
Quand Bouygues dit « on n'a pas de sans-papiers sur nos chantiers », là c'est faux. Donc soit ils mentent, soit ils ne savent pas, mais on peut leur dire c'est faux, ils ont évidemment des sans-papiers sur le chantier qu'ils n'emploient pas directement et ils se retranchent derrière ça. Ils ont eu recours à des agences d'intérim justement pour ça, pour externaliser l'illégalité que constitue le fait d'embaucher des sans-papiers et par suite tout un tas d'illégalités dont le fait de ne pas faire signer de contrat aux gens. Il y a une forme d'externalisation de l'illégalité que constitue le fait d'employer des sans-papiers.
Est-ce que c'est quelques dizaines de travailleurs sans-papiers ou est-ce que c'est quelques centaines?
Par définition, on n'en sait rien, les sans-papiers ne sont pas recensés en tant que tels, donc c'est absolument impossible à dire. Après, bon, on se doute bien que si on retirait tous les travailleurs sans papier des chantiers, les chantiers avanceraient beaucoup moins vite ou n'avanceraient plus.
Ça veut dire que si, par exemple, chez Bouygues demain, sur les chantiers Bouygues, ils en ont à peu près 700 en France, on retire tous les travailleurs sans papier de ces chantiers, les chantiers s'arrêtent?
On peut le penser, d'autant que les sans-papiers sont concentrés, c'est pas comme s'ils étaient dispersés dans tous les métiers et que donc il y avait une sorte de saupoudrage comme ça et qu'on aurait un peu des sans-papiers qui disparaîtraient de tout un tas de métiers. Ils sont concentrés dans certains métiers qui sont pas moins nécessaires que d'autres, notamment les métiers de manœuvre, donc c'est tout ce qui est marteau-piqueur, nettoyage, et les métiers de ferrailleur, c'est ce qui permet aux murs de tenir concrètement de mettre la ferraille dans le béton armé. Donc comme c'est concentré dans ces métiers, si tous les sans-papiers disparaissaient d'un coup, oui, les chantiers s'arrêteraient.
Les sans-papiers sont ceux qui mettent la ferraille dans le béton, selon Nicolas Jounin. Un autre de ces travailleurs qu'on va suivre avec Pascal Pascariello, qu'on va appeler Fofana.
Il est 6h.
6h?
Ouais, il est 6h du matin, ouais. Tous les matins, je pars à 6h, ouais. Normalement, souvent, j'arrive à 7h, 7h30.
Mais vous devez commencer le travail à quelle heure?
À 8h. À 8h. Il faut être en avance au travail toujours. Je dois respecter le boulot comme il faut. Donc,
et vous payez les heures sup?
Non, ça n'arrive pas. Hein. C'est pas payé.
Et là, on va où?
À la Défense. Esplanade de la Défense.
Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce chantier?
Ça fait 9 mois. Je travaille pour Bouygues.
Est-ce que vous travaillez pour Bouygues?
Au chantier de Bouygues. Accès à la Défense, oui. C'est-à-dire on travaille dans les clandestinités, donc...
Vous travaillez dans la clandestinité?
Normalement. Je n'ai pas de papier. Je travaille avec les papiers des cousins, des frères. Puis, il fait semblant de ne pas savoir, sinon tout le monde sait que si tu as de papier ou pas, tout le monde le sait. Hein.
C'est-à-dire?
Là où on fait les badges et tout, donc il le sait, mais... Il fait semblant de ne pas savoir, c'est tout. J'ai un badge de Bouygues.
Vous avez un badge Bouygues?
Oui, bien sûr.
C'est vrai?
J'ai même un badge d'accès à la Défense.
Alors là, vous êtes en train de me montrer les badges que vous avez?
Oui.
Ah oui, Bouygues.
CB31, oui.
BAT, IDF.
Oui. Avec mon nom, bon, ça c'est le nom que je travaille avec.
Oui. Et ce badge Bouygues, comment vous l'avez fait? C'est-à-dire, c'est qui s'en occupe?
Les chefs de Bouygues, un chef de Bouygues, qui s'occupe, quoi. Vous voyez, bon. Parce qu'il y a les gardiens là-bas qui vous font les badges, mais normalement, il faut un chef de Bouygues qui vous accompagne là-bas pour faire les badges.
Et donc, quand vous arrivez, vous devez donner au chef de Bouygues quel papier pour qu'il fasse ce badge?
Ça, la photocopie de notre pièce qu'on a, là.
De vos faux papiers. On va le dire tout bas, parce qu'il y a des gens qui commencent à arriver près de nous.
Ouais, ça va. Comme tous les jours.
À quoi vous pensez? Vous avez l'air de penser à quelque chose, c'est pour ça.
On pense beaucoup de choses. Tous les jours, il faut penser à ta famille. Tu sais pas comment ils ont dormi, comment ils ont réveillé, qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est dur, quoi. On n'a pas le choix, donc c'est dur. Tu es obligé de penser à ta famille tous les jours, tous les heures.
Là, il est 6h28, il est quelle heure à Bamako?
Normalement, il est 4h28 à Bamako. Parce qu'il y a 2 heures de décalage.
Ils sont en train de dormir?
Oui. Maintenant, ils sont en train de dormir, ouais. Je ne travaille pas avec mon nom, mais c'est avec le nom de quelqu'un d'autre, quoi. Parce que vous voyez, bon. Donc, c'est ces photocopies que je les donne.
Oui, parce que vous, ça fait combien de temps que vous travaillez sur les chantiers Bouygues?
Ça fait 4 ans que je suis avec Bouygues.
4 ans?
4 ans. Un peu partout, parce que souvent je pars au chantier, j'ai fait un an et quelques sans bouger, quoi, sans bouger du chantier. Donc,
Vous êtes sur des gros chantiers qui durent longtemps, quoi.
Ah, oui. La boîte d'intérim, ça fait 5 ans que je suis avec Sovitra, mais j'ai commencé avec Bouygues, ça fait 4 ans. Normalement, j'ai fait manœuvre. Même si tu sais travailler, si on sait que tu n'as pas une situation régulière, donc. On ne peut pas te donner un autre boulot. Hein.
Pourquoi vous savez faire quoi d'autre sur un chantier à part manœuvre?
Normalement, je peux être accompagnateur de boiseurs, coffreurs, de coffrets.
Ça veut dire que de temps en temps, sur les chantiers, vous faites boiseurs, des coffreurs, mais vous êtes payé manœuvre?
Ah oui.
Faites voir. Alors, c'est un contrat de Sovitra, une boîte d'intérim, utilisateur
Bouygues. Oui. Voilà, Bouygues Bâtiment. Il met ici comme quoi qualification manœuvre. T'as vu? Tout, alors
c'est
que...
première catégorie, enfin c'est le plus bas.
Voilà, c'est le plus bas.
Salaire de référence,
voilà.
C'est
8,70€.
Pour une heure.
Bah, pour une heure, oui.
Durée hebdomadaire, 37 heures.
Oui. Il faut compter, il y a certains qui gagnent 500€ par semaine. 500€, 450 par semaine. Alors qu'un manœuvre, tu gagnes combien?
Vous gagnez combien?
Bah, moi, avant, j'ai gagné 300, mais maintenant, je crois que c'est 320 ou 340. Donc, je crois qu'il n'y a pas eu de changement dans ce cas.
Ça fait 5 ans?
Oui, bientôt, oui.
Et on vous a augmenté de 20€?
Un tout petit peu. Un tout petit peu. Il y a certains chefs qui essayent de vous pousser un peu. Bon, ça fait partie du boulot aussi. Bon, ils travaillent pour Bouygues. Nous sommes les intermédiaires, mais ils travaillent pour Bouygues. C'est le chef de l'équipe qui intervient pour qu'il m'augmente un peu. Parce que, bon, c'est comme ça. Ça m'est arrivé deux fois. Ça, c'est la deuxième fois. Bon, même ça, j'ai même pas eu l'augmentation encore. Bon.
Vous avez compris quand même, hein, depuis le temps qu'on se connaît, le monde est divisé en deux. Il y a les exploiteurs et les exploités. Ça y est, vous avez... Eh bien, c'est plus compliqué que ça, comme on dit. Il y a aussi quand même pas mal de gens qui seraient plutôt du côté des exploiteurs et qui en ont marre, de plus en plus marre, et qui balancent vraiment. Exemple, Laurence, on va l'appeler comme ça, employé d'une boîte d'intérim.
Vous travaillez dans une société d'intérim, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Ça fait combien de temps à peu près que vous travaillez dans l'intérim?
10 ans, depuis 97.
Et vous, ça consiste à quoi votre travail?
Alors, démarcher des entreprises pour détacher du personnel intérimaire, spécialisé dans le bâtiment. Alors, dans le bâtiment, on a quand même deux secteurs d'activité qui sont bien distincts. On a le gros œuvre et le second œuvre. Alors, le gros œuvre, c'est tout ce qui est fondation. Donc, le coffrage, la ferraille, le manœuvre. Et le second œuvre, c'est toute la partie, c'est la finition du chantier, en fait. Donc, la plomberie, le carrelage, tout ça. C'est pour bien distinguer les deux métiers. Les entreprises de gros œuvres, principalement, ils ont toujours traité de marchands de viande parce que on était considérés comme de la sous-traitance. Donc... un moyen d'exploiter du personnel à un coût moyen, ça leur évitait d'assumer des conséquences, s'il y en avait. Donc à savoir l'embauche de faux papiers, de personnes pardon, en situation irrégulière, ou alors des accidents de travail, des maladies.
Et vous avez travaillé, vous travaillez pour une société d'intérim qui travaille donc directement pour des grandes entreprises comme Bouygues, Vinci, c'est ça?
Oui, tout à fait. On travaille sous forme, on a des accords cadres avec ces entreprises.
Alors les accords cadres, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est?
C'est des accords tacites qu'on a discutés préalablement, principalement sur la façon qu'on va avoir pour embaucher notre personnel. Donc ils devront être en situation régulière, etc. Donc c'est une façon pour eux de se décharger. C'est des coefficients négociés donc pour travailler sur du long terme, on va dire.
Admettons, hein, Bouygues, par exemple, qui fait des accords cadres avec vous?
Oui, tout à fait.
Alors Bouygues arrive et dit, voilà, j'ai besoin de tant d'heures de main d'œuvre, c'est ça?
Tout à fait. Oui, il parle en heures de travail, exactement.
Il ne parle pas en termes de personnes?
Pas du tout. Non. Ben, un jour, justement, je me suis rendue sur un chantier où j'avais l'opportunité, franchement, de détacher une cinquantaine d'intérimaires. C'était une première pour moi. Donc j'étais tout de suite impressionnée. Et en discutant avec un des responsables, en fait, il était en train de me parler en linéaire. Je ne comprenais pas. Donc, en fait, il parlait en heure de travail et en linéaire, c'est-à-dire en nombre de mètres cubes qui vont couler de béton pour construire. Et je me suis jamais représentée sur le chantier. J'ai pas pu. Non, ça faisait vraiment marchand de viande et j'ai pas du tout apprécié.
Ça, c'était quoi? C'était un chantier Bouygues?
Une filiale, mais même état d'esprit.
Alors justement, Bouygues, c'est quel état d'esprit?
Donc rentabilité, déjà dans un premier temps. Ils peuvent se permettre d'abuser de leur pouvoir. Ils ont un gros cabinet d'avocats qui les protège. Ils se sentent surprotégés, donc ils peuvent se permettre plein de choses.
Comme quoi?
Embaucher déjà sciemment, enfin, ils le savent très bien, embaucher du personnel en situation irrégulière. Ils le savent et eux les premiers. Et ils le cautionnent et je le sais. Et j'ai vu de mes yeux. Hein, donc,
Alors expliquez-moi ce que vous avez vu de vos yeux.
Mais écoutez, déjà en premier temps, quand ils nous envoient du personnel qu'ils connaissent, eux, ils nous envoient du personnel qu'ils connaissent dans nos agences pour les inscrire. Donc quand ils arrivent à l'agence, on se rend compte qu'ils ont des faux papiers. Donc soit on rentre dans le jeu, soit on les appelle et on leur dit ça va pas être possible. De toutes les façons, si c'est pas avec nous qu'il va s'il travaille pas avec nous, il travaillera dans une autre agence. Mais à partir du moment où ils peuvent faire porter le chapeau à d'autres, ils ne vont pas se gêner pour utiliser une main-d'œuvre indirecte.
Et donc Bouygues, sciemment, par le biais des chefs de chantier, vous envoie des travailleurs qui ont des faux papiers.
Oui. Et donc on nous demande de les détacher sur tel chantier, de les déclarer, de leur faire un contrat. Et puis si demain il y a un problème, c'est pas eux qui assumeront les conséquences, ça c'est sûr.
Évidemment, ils ne les embauchent pas directement.
Non, c'est surprenant. Donc, ils sont dégagés de toute responsabilité.
Voilà des éléments quand même d'enquête, mais il faut aller plus loin et on ira plus loin demain avec Pascal Pascariello. Merci à tous, merci à Fofana, à Traoré, à Laurence, à Nicolas Jounin, à Jean-Claude Amara de Droit Devant et à Jean-Michel de Solidaire. La revue AGO numéro 40 porte le titre « L'invention de l'immigration » qui est paru en 2008 et le bouquin de Nicolas Jounin, c'est « Chantier interdit au public » aux éditions de La Découverte. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez faire des commentaires aussi sur cette page là-bas, si j'y suis, sur le site France Inter. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, le site non officiel de là-bas, si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Thomas Robin et Michel Bézikian, c'est Koy Nguyen et Raphaël Moutéa qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry et Agnès Lebot, comme chaque jour. Attends avec impatience vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis, c'est-à-dire au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.